Alors bon, ça va. Merci, Jessica. Je ne sais pas comment c'était pour vous le son, mais en ce qui me concerne, j'ai pu suivre toutes les paroles, mais sans la guitare. Ce qui était quand même un son très pur pour moi, alors j'apprécie. J'apprécie le choix aussi des paroles. J'aurais aimé peut-être avoir l'extrait de quelle source. Je suis pas certain, mais je pense que c'était dans les Lamentations, mais je suis pas certain. Aujourd'hui, nous allons parler du corps du Christ, qui est l'Église de Dieu, mais en action. Les Saintes Écritures, bien sûr, nous disent, frères et sœurs, que nous sommes, entre autres, des disciples. Nous sommes appelés aussi des saints, des enfants de Dieu, des chrétiens, des élus et d'autres qualificatifs. Alors, ce sont tous des qualificatifs que nous avons reçus de la parole de Dieu elle-même, de Dieu lui-même. Mais pourquoi? À quelle fin? Nous sommes appelés, et nous le savons, que nous sommes appelés à représenter le Père et son Fils en tant qu'ambassadeur. Dans un monde, pardon, composé de beaucoup de peuples, de nations, de royaumes, nous représentons avant tout la domination ultime, la réalité ultime, le règne de Dieu, le royaume de la famille divine. Mais qu'est-ce que cela signifie? Nous faisons partie de la mission de Dieu d'annoncer la réalité que le représentant de ce royaume, comme l'a dit Werner, Jésus le Sauveur du monde, loin, le Messie, a été nommé par la plus haute autorité de l'univers, soit le Père, roi et Seigneur. Et par le fait qu'il a choisi ses propres assistants, ses propres disciples, le roi des rois a déjà une équipe, une assemblée, en hébreu une kahal, en grec une ecclésia, une église, qui est en apprentissage pour exercer actuellement la réalité de son royaume sur cette terre. Nous allons voir un peu la structure de cette réalité en posant la première question. Quelle est la loi de ce royaume? Quelles sont les règles de ce gouvernement? Et qui d'autre pour nous aider à comprendre mieux que Jacques, le frère de Jésus, qui va appeler cette loi du royaume la loi royale, la loi écrite et appliquée par le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il appelle aussi cette loi royale la loi de la liberté. Alors, voyons un peu sa description des éléments. Nous allons voir assez rapidement quelques éléments avant de rentrer un peu dans notre participation beaucoup plus pratique à ce royaume céleste sur la terre. Comment appliquons-nous et rendons-nous manifeste cette loi de liberté? Lettre de Jacques, chapitre 2. Nous allons un petit peu décortiquer 8 à 12. Les versets 8 à 12, lettre de Jacques 2, 8, 12. 8 à 12. Si vous accomplissez, remarquez ici l'expression, donc la loi royale, la loi du royaume, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Vous êtes, autrement dit, dans l'esprit du royaume, dans la façon de procéder du royaume. La loi royale, donc, a l'amour pour fondement. Verset 9. Mais si vous faites acception de personne, si vous faites preuve de partialité, vous commettez un péché, c'est-à-dire vous quittez la loi royale. Vous êtes condamnés par cette même loi comme des transgresseurs. Donc, la loi royale à la justice, qui ici est opposée à la partialité ou à faire un choix de nos préférences, on peut dire, en favorisant l'un plus que l'autre, comme condition préalable. Donc, un autre élément de cette loi royale, c'est la justice. Verset suivant, verset 10, « Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Donc, un autre aspect, la loi royale doit être prise dans son ensemble, ne peut pas être appliquée par morceaux. Ce n'est pas, autrement dit en anglais, l'expression du « pick and choose ». On choisit ce qui fait notre affaire, on n'utilise pas ce qui ne fait pas la nôtre. Verset 11, « Car celui qui a dit « tu ne commettras pas d'adultère » a aussi dit « tu ne tueras pas ». Alors, si vous ne commettez pas d'adultère, mais que vous commettez un meurtre, vous êtes devenu un transgresseur de la loi. » Donc, il rassemble ici l'idée et définit très, très bien que finalement, la loi royale, ce sont à la base les 10 commandements. Et c'est pour ça qu'il va finalement, verset 12, dire « parler ». Et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Donc, la loi royale régit deux éléments importants dans nos vies, nos paroles et nos actes. Et c'est intéressant de voir dans quel ordre. Ainsi, l'Assemblée de Dieu, hein, qui nous sommes, l'Assemblée de Dieu est convoquée dans ce présent monde mauvais et est évaluée dans un seul but, le but de connaître comment chacun obéit à la loi royale, l'utilise dans les circonstances de sa vie et utilise ses capacités. Maintenant, comment la maison de Dieu, comment l'Assemblée de Dieu est-elle évaluée, est-elle jugée? Well, d'abord, il faut savoir, frères et sœurs, qu'il y a un jugement ou une évaluation personnelle et individuelle. Chaque personne est évaluée individuellement. Et on peut voir ça, on ne s'y référera pas, mais c'est tout l'enseignement qui est donné par Jésus-Christ dans la parabole des mines, dans la parabole des talents. Certains, n'est-ce pas, ont reçu différemment, d'autres ont reçu, par exemple, tout semblable, parabole des mines. Comment chacun fait avec ce qu'il a reçu? Chaque personne. Autrement dit, ce n'est pas parce que mon voisin, mon frère, fait bien que moi, je fais bien. Maintenant, il y a d'autres éléments dans la parole de Dieu qui montrent que, individuellement, nous sommes jugés, mais aussi par petite assemblée. Je dis petite parce que nous allons voir que la parole de Dieu nous parle d'église-maison. Chaque église de maison est évaluée en tant qu'entité. Regardons dans la lettre aux Romains, chapitre 16, on va voir un petit peu l'ambiance de l'église telle qu'elle était au début. Nous avons connu, bien sûr, de grandes assemblées. Nous nous réjouissons. Présentement, Tim aussi a été invité à parler à une grande assemblée. Il se réjouit là-bas au Madagascar. Mais le noyau de l'Église, c'est un peu comme un petit groupe qui fonctionne ensemble. Romains 16, on va voir l'ambiance ici. « Je vous recommande Phébé, notre sœur qui est diaconesse de l'église de Sancheré. » Donc ici, il y a une dame qui arrivera à Rome avec une lettre de Paul et elle a un rôle de servante dans cette assemblée à Sancheré qui est quand même pas loin de Corinthe, mais qui est distincte de Corinthe. Donc, elle apporte probablement à Rome la lettre de Paul depuis Sancheré près de Corinthe. Verset 2, afin que vous la receviez, elle, cette servante, cette diaconesse en notre Seigneur, d'une manière digne des saints. Voyez-vous, ça, c'est un des noms que nous avons reçus. Nous sommes des saints. Et que vous l'assistiez, que vous l'aidiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle en a donné aide à plusieurs et à moi-même, parce qu'elle sert, elle aussi, elle a besoin d'aide. Donc, les frères de Rome reçoivent ici la directive d'aider Phébé dans toutes les affaires dont elle a besoin. Ça veut dire probablement se voir offrir l'hospitalité, probablement recevoir un soutien financier pour ses déplacements. D'autres besoins matériels, affectifs aussi, spirituels. Elle a besoin d'être soutenue en tant qu'enfant de Dieu. Verset 3. Regardez comment Paul connaît tout le monde. Saluez Prisca, Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé, verset 4, leur tête pour sauver ma vie. Donc, on voit ici un risque que Aquilas et Prisca, qui est la même que Priscille, ont risqué leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, mais ce sont encore toutes les églises. Donc, il y a beaucoup d'églises des païens, c'est-à-dire de ceux qui ont été appelés alors qu'ils n'avaient pas, n'est-ce pas, le signe des Juifs, n'avaient pas la circoncision. Verset 5, saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Voyez-vous, il y a une église que Prisca et Aquilas servent et c'est dans leur maison. Donc, ici, Paul fait référence d'abord aux grandes assemblées de Laodicée, probablement, Thessalonique, Bérée, mais il y a aussi l'église qui est dans la maison. Saluez Païnette, mon bien-aimé, qui a été pour le Christ les prémices de l'Asie. Ici, Paul sort une expression que nous devons nous appliquer à nous-mêmes. Il y a un principe dans la parole de Dieu qui fait que nous sommes spéciaux aux yeux de Dieu de par son choix qu'il a fait de nous. Le principe des prémices, il est évoqué ici. Et vous pouvez comparer à ce que Paul, déjà dans sa lettre, plus tard va expliquer, avait plutôt, parce que là on est au chapitre 16, mais en fait auparavant, au chapitre 11, verset 16, par exemple, il a bien expliqué le principe des prémices. C'est que si les prémices sont saintes, les prémices, c'est les premiers fruits. Si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. C'est un principe extrêmement profond, frères et sœurs. Et bien sûr, il va citer comme Christ est le prémice des prémices. Donc, Christ est saint, mais il explique que tout le reste à ce moment-là devient saint. Et comment tout le reste? Bien, Jésus-Christ, étant donné qu'il est les prémices d'abord de Judas, de Israël, tout Israël, éventuellement, Paul conclut au verset 26 dans Romains 11, après avoir parlé du principe des prémices, tout Israël sera sauvé. Vu que Jésus-Christ est sauvé, il est aussi non seulement sauvé, mais sauveur, tout Israël sera sauvé. Mais ensuite, il va expliquer qu'il y a des prémices un peu partout dans le monde. Entre autres, il y a celui qu'il a précisé, et Païnette, qui est les prémices de l'Asie. Avec ce même principe-là, autrement dit, il représente son secteur à lui qui éventuellement sera sauvé. Dieu est très confiant en investissant dans ses enfants le futur du monde. Jésus-Christ, donc, premier fruit de l'humanité, étant lui-même de Juda et d'Israël, je répète, garantit le salut de tout le peuple. Cela indique donc que ce principe s'applique à d'autres peuples, à d'autres régions, par le fait des prémices, comme Épaïnette, comme je l'ai dit, pour la région d'Asie. Il n'est pas le seul à être spécifiquement appelé prémice d'une région. c'est-à-dire prémices en faveur d'une région, représentant une région dans le plan de Dieu pour le salut de Dieu. Alors, Paul mentionne, par exemple, Stéphanas et sa famille, qui sont aussi des prémices de l'Achaïe, par exemple. Je continue. Le principe des prémices fait partie du sens pourquoi nous sommes dans l'équipe de Jésus-Christ. Voyons maintenant le verset 6. Le principe de chaque individu, mais aussi chaque église-maison. Saluez Marie qui a pris beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. On reconnaît qu'il y a des gens qui nous ont précédés. Il y avait des parents de Paul avant que Paul soit appelé dans l'Église. Probablement ces parents-là ont prié pour la conversion de Paul. Verset 8, saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Verset 9, saluez Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ, et Stachys ou Stachus, mon bien-aimé. Saluez Apelles, qui est éprouvé en Christ. Et regardez, verset 10 à la fin, saluez ceux de la maison d'Aristobule. Ils sont un groupe, là. Verset 11, saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur. Un autre groupe. Verset 12, saluez Tryphène, Tryphos, qui travaille pour le Seigneur. Saluez Perside. On va descendre au verset 14. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas et les frères qui sont avec eux. Un autre petit groupe qui fonctionne dans le corps du Christ. Verset 15, saluez Philologue et Julie, Néré, sa sœur et Olympe, et tous les saints qui sont avec eux. Un autre groupe. Verset 19, les églises d'Asie vous saluent, Aquilas et Priscille, on l'avait vu, et l'église, je reprends, qui est dans leur maison. Voyez-vous, encore une fois, il reprend. Tous les frères vous saluent. Donc, nous voyons qu'il y a un salut individuel, mais il y a comme un groupe aussi qui se tient solide, qui développe des liens qui sont identifiables comme entité, comme équipe, comme, n'est-ce pas, un groupe qui travaille et qui se développe ensemble. Et bien sûr, nous savons que Dieu adresse des messages différents selon chaque communauté. Chaque communauté a sa propre identité. L'exemple nous est donné dans le livre de l'Apocalypse où Jésus-Christ va envoyer 7 lettres à 7 différentes églises et il ne dit pas la même chose exactement à chacune des communautés. Chacune se développe différemment. Certaines se développent très bien, d'autres se développent mal. Et Jésus-Christ doit appliquer un plan correctif pour aider à rectifier certains développements, n'est-ce pas, de ces églises. Alors, on voit très bien, donc, c'est une autre réalité du royaume de Dieu. Les communautés ont une identité et doivent se développer selon le plan de Dieu. Et nous faisons tous, frères et sœurs, partie d'une communauté. Oui, nous faisons partie du corps du Christ dans l'ensemble, mais nous sommes aussi peut-être une jambe dans le corps du Christ en tant que communauté, ou un bras, ou une ouïe, n'est-ce pas? Toutes ces choses-là, c'est des analogies pour nous aider à comprendre que nous avons un rôle différent, mais nous sommes tous là dans le même corps. Donc, chaque église, par exemple, on le voit dans l'Apocalypse, est évaluée. Des récompenses sont promises et des châtiments sont préparés pour leur repentance et leur croissance. Si les églises sont toutes distinctes, est-il possible qu'elles aient développé en un corps unifié, donc, leur propre personnalité et qu'elles aient atteint leur propre degré personnel de maturité et d'utilité pour leur Seigneur? La question vous appartient. Les églises sont scrutées par Dieu. Cependant, d'autres personnes sont impliquées dans l'exercice de ce jugement, de ce discernement. J'ai beaucoup aimé ce que Werner nous a dit tout à l'heure. Nous sommes tous aux yeux de Dieu qualifié pour discerner, pour juger, pour évaluer. Dieu nous fait confiance. Dieu nous donne les outils, mais Dieu nous dit, nous sommes qualifiés pour juger, pour discerner. C'est très encourageant de savoir ça. Nous devons, bien sûr, aussi appliquer cette capacité de juger entre nous. Paul nous dit que nous devrions ensemble régler nos différends. Alors, nous sommes qualifiés aussi pour régler nos différends en tant qu'église locale, en tant qu'église maison, s'il y a lieu. Il dit la question dans la lettre aux Corinthiens, s'il ne rapportera pas, je vais la lire pour vous, dans première lettre aux Corinthiens 6, verset 1, il dit « Quelqu'un de vous, lorsqu'il y a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? » Ça veut dire, est-ce qu'on va aller à l'extérieur du corps du Christ pour régler nos problèmes en faisant appel à des gens qui ne connaissent pas les lois de Dieu pour régler les différends entre nous? Paul dit, non, non, nous sommes appelés à régler nos différends. Nous sommes qualifiés pour ça. Mais il met quand même un regard en disant, mais il me semble que vous ne l'exercez pas, cette qualification-là. Vous ne développez pas ça. Alors, il encourage les gens en disant, verset 5, par exemple, « Je l'ai dit à votre honte, ainsi il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. » Ce qui veut dire, c'est un point d'exclamation. Est-ce qu'il n'y aurait pas ça? La réponse, vous devriez pouvoir faire ça. Donc, aspirez à le faire. D'autres éléments sont impliqués dans notre développement. Non seulement la communauté, nous pouvons nous développer mutuellement, quitte même à régler nos différends, mais un élément est surprenant qui est donné dans les Écritures et je vais vous encourager à vous rapporter à la première lettre de Pierre. Pour voir que Dieu utilise les gens du monde dans notre développement. Il utilise les gouvernements pour notre développement, dans leur justice et leurs injustices, dans leur application des lois justes et des lois injustes. La première lettre de Pierre, chapitre 4. Autrement dit, notre développement est assuré. Les moyens que Dieu prend parfois sont surprenants. Mais Dieu nous dit, ne soyez pas surpris, je suis souverain, j'utilise tout pour votre avantage, à vous de comprendre comment je fonctionne. Les païens, c'est-à-dire les non-convertis sur notre lieu de travail, les gens de l'extérieur pour qui nous travaillons ou avec qui les chrétiens font affaire. Dieu s'en sert pour notre développement. C'est ce que donc nous pouvons lire dans la première lettre de Pierre 4, verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Et on sait qu'il est en train de parler d'injustice de la part des gouvernements, la persécution, le fait que les chrétiens sont pointés du doigt. Soyez pas surpris de ça. Autrement dit, ces gouvernements-là sont en place pour vous aider à vous développer. Parce que je suis en charge. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Dans ce grand plan de développement individuel, local, et universel, il y a le fait que nous participons aux souffrances du Christ. C'est le grand bassin creuset de notre développement. C'est un développement très intense. Afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Et regardez au verset 14, si vous êtes outragés, insultés, pour le nom du Christ, vous êtes heureux, vous êtes dans le plein, vous êtes en plein dans le creuset de formation. Vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Et bien sûr, il va continuer à développer. Par exemple, au verset 17, il dit, pour vous, c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Nous sommes présentement évalués, développés. Nous sommes présentement qualifiés par Dieu pour le royaume de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Ce n'est pas parce que les païens participent involontairement ou indirectement à notre développement que nécessairement ils vont être récompensés pour ça. Parce que s'ils participent de façon injuste, ils seront punis pour leurs injustices. Il faut quand même savoir ça. Donc, les gentils en particulier, les autorités civiles sont impliquées dans notre jugement, dans notre développement. Et la façon dont nous nous comportons, la façon dont nous réagissons aux dirigeants de ce monde, à leur influence, à leur critique et même à leur persécution, tout cela est utile dans notre évaluation en tant que membre du gouvernement de Dieu. Nous sommes membres du royaume de Dieu pour remplacer tous les gouvernements de la planète, frères et sœurs. Et ça commence, oui, un à un, oui, par petite église, et oui, finalement, par tout le corps du Christ. Alors, maintenant, revenons un petit peu en arrière dans la première lettre de Pierre. Nous allons voir des moyens concrets. Qu'est-ce que concrètement cela signifie? Et Pierre va nous donner des indices. Il va parler, par exemple, de l'importance d'une conduite ou d'un comportement honorable. Le chrétien se développe en ayant toujours en tête le comportement honorable. Avoir une conduite digne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, et pour ce faire, il va nous dire, vous avez un outil. Le premier outil que vous avez, c'est votre bouche. C'est votre bouche. Est-elle consacrée à l'œuvre divine? Première lettre de Pierre 3, verset 9. C'est important, frères et sœurs. Ne rendez point mal pour mal. Première lettre de Pierre 3, 9. Ou injure pour injure. Regardez maintenant le prochain commandement, le prochain mot, un mot qu'on n'utilise peut-être pas assez souvent. Je vais le définir pour vous un peu. Bénissez. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. Vous êtes appelés, frères et sœurs, à bénir. Nous sommes des gens qui savons bénir ou devons apprendre à bénir, afin, bien sûr, d'hériter la bénédiction. Et qu'est-ce que bénir? C'est édifier par de bonnes paroles. La Bible nous dit, nous devons demander à Dieu des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, des paroles articulées de bénédiction. Et là, il va citer un extrait des Écritures hébraïques lorsqu'il dit, si quelqu'un en effet veut aimer la vie, voir des jours heureux, s'il veut voir, autrement dit, sa vie être transformée, fonctionner, avoir une paix et une sérénité intérieure, avoir de la joie, voyez, il nous explique qu'est-ce que c'est bénir, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Donc, bénir, ça se fait au niveau de la bouche, d'abord. C'est sûr que nous parlons beaucoup que nos actions doivent refléter la parole de Dieu. Mais vous savez, au Québec, on a un petit dicton. C'est que les bottines doivent suivre les babines. Alors, notre bouche, par contre, annonce, dit, déclare, affirme la vérité de Dieu et ensuite nos actions le prouvent. Mais remarquez que la bouche déclare d'avance. Nous devons donc travailler beaucoup sur ce que l'on dit. Et ça doit être fait avec sincérité, en laissant Dieu nous inspirer les paroles que les gens ont besoin d'entendre. Il continue au verset 12 pour montrer comment bénir. Car les yeux de l'Éternel sont sur leur juste et ses oreilles sont ouvertes à leur prière. Alors, une façon de bénir les gens, c'est pas seulement directement en leur disant sincèrement des choses qui les construisent, mais c'est en parlant à Dieu aussi des besoins des autres. C'est en priant Dieu que nous pouvons bénir les gens. Dieu bénit mon patron même s'il me fait du mal. Et vous savez, Dieu va le faire. Et c'est difficile à faire comme prière lorsque nous sommes vraiment abusés par quelqu'un, de demander à Dieu de le bénir sincèrement. C'est tout un défi. Il faut que ce soit l'Esprit de Dieu en nous qui nous amène à ça. Mais nous pouvons faire nous-mêmes cette prière. Père, utilise-moi aujourd'hui pour bénir ceux que tu as mis dans ma vie, sur mon chemin. Mon mari, ma femme, mes enfants, tes enfants à l'Église, mes collègues de travail, le concierge, le caissier, tous ceux dont tu te soucies, je veux être un instrument d'édification pour t'honorer, toi et ton fils Jésus, loin. Apprenez à reconnaître et à gérer avec honneur toute situation d'injustice à notre égard. Considérez ces épreuves comme des occasions spéciales de montrer à notre Père notre maturité et notre humilité. Notre occasion d'apprendre la vérité, d'apprendre le pardon et la patience. Si nous voyons les épreuves comme des occasions d'apprendre ces choses, nous ne voyons plus l'épreuve comme quelque chose que nous subissons, mais comme des outils de croissance. Et certains d'entre nous, nous avons besoin d'apprendre le pardon entre autres, un pardon profond. Ces qualités sont essentielles dans la famille régnante de Dieu. Avoir une approche de serviteur en toute occasion, ça aussi, ça fait partie de notre formation. Comment puis-je être utile? Je veux faire partie de la solution. Je veux rayonner l'ingéniosité, le respect, la créativité aimante de la famille de Dieu. Je veux exercer maintenant pour le bénéfice de la foi des autres des dons spirituels. Je désire leur apporter de l'espoir. Je désire leur apporter une guérison physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Ça fait partie de notre formation. Désirons, frères et sœurs, ardemment faire partie de l'implication actuelle de Dieu dans ce monde malade. Ne nous retirons pas de ce monde malade, mais allons guérir ce monde malade. Écoutons les paroles de Jésus selon Matthieu 10. Selon Matthieu 10. Versets 7 à 8. Allez et retirez-vous dans le désert et attendez le retour du Christ. Non, excusez, j'ai mal lu. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Et à ce moment-là, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Ces quatre mots actifs. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Nous étions malades, frères et sœurs, dans nos cœurs et dans notre corps. Donnons la guérison que nous avons reçue. Nous avons été totalement purifiés de notre lèpre spirituelle et sociale. Donnons le pardon et la connaissance de l'amour de Dieu et de son désir de pardonner, de libérer, de passer à des jours meilleurs. Nous avons été ressuscités de notre mort spirituelle. Partageons les bienfaits de notre résurrection et faisons-le dès maintenant. Regardez la lettre aux Éphésiens. Ce sont des versets riches, n'est-ce pas? Et ce que je veux faire simplement, c'est laisser la parole de Dieu nous laver, nous stimuler, nous rafraîchir, nous donner le goût d'être encore plus dans le plan de Dieu. Lettre aux Éphésiens 2, verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Donc, nous sommes vivants maintenant. Nous avons été ressuscités des morts, de nos pensées morbides, de nos comportements morbides. Nous étions à long terme, je dis à long terme, voués à l'échec. Notre comportement nous aurait amenés, s'il ne nous a pas déjà amenés, dans un cul-de-sac final. Non. Et regardez ensuite verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. C'est intéressant. On parle ici qu'on est joint à d'autres ressuscités. On a été ressuscités ensemble. Je me souviens quand je suis arrivé à l'église en 73, j'ai rejoint des frères qui pensaient les mêmes valeurs qui étaient dans les Saintes Écritures qui m'étaient chères. C'est intéressant. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Nous sommes maintenant transposés, n'est-ce pas, spirituellement dans la réalité du royaume de Dieu et chaque jour nous essayons, n'est-ce pas, de capter cette réalité pour pouvoir l'appliquer dans nos vies et rayonner autour de nous, n'est-ce pas, cette liberté, cette loi de liberté, cette loi royale. En Jésus-Christ. Donc, nous avons été libérés des mauvaises habitudes, des chaînes de dépendance. Alors, aidons les gens dans leur quête de liberté. Moi, j'avais un problème avec la nourriture. Je mangeais trop souvent. Mais Dieu m'a libéré de ça. Alors, si je vois quelqu'un qui a de la difficulté, j'ai tendance à pouvoir l'encourager. Aidons les gens dans leur quête de liberté. N'attendez pas un signal spécial. Allons de l'avant. Nous pouvons surdemander à Dieu une confirmation. Vous savez, ce n'est pas toujours facile. On voit un besoin, on se dit, je devrais-tu pas, devrais-tu bénir la personne? Réponse, vous savez maintenant que oui. Vous pouvez la bénir d'abord en prière, mais vous pouvez ensuite aller la bénir en apportant à la personne la solution que Dieu vous a inspirée. Vous pouvez demander à Dieu des confirmations si vous êtes insistant, mais sachez d'abord que la parole de Dieu vous appuie pour accomplir le bien. Ne laissons pas le rejet par les hommes nous arrêter. Au contraire, demandons à Dieu plus de sagesse et remercions-le pour la foi qu'il a en chacun d'entre nous. Dieu a confiance en nous. Utilisons le pouvoir de la prière de l'unité de cœur. Nous allons voir maintenant un petit peu la puissance de la parole pour bénir, mais utilisée pour la communauté, pour les petits groupes. Voyons comment, par exemple, les frères vont entourer dans le livre des Actes ceux que Dieu utilisait en leur temps. Voyez comment les frères ont entouré, par exemple, premier exemple, une dame appelée Dorcas ou Tabitha de son nom hébraïque dans l'Acte des Apôtres. La communauté peut faire ça, une église locale peut faire ça, une église maison peut faire ça. En fait, ça prend beaucoup plus d'intimité. Voyons Actes des Apôtres. Je pense que, je ne vois pas le chapitre, mais je pense que c'est le chapitre 9. Actes des Apôtres. Au verset 36, laissez-moi vérifier si c'est bien. Le chapitre 9. Verset 36, oui. Chapitre 9, verset 30. Il y avait à Joppé parmi les disciples. Parmi les disciples, voyez-vous, il y a un groupe ici qui s'appelle les disciples. Une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas, elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Donc, c'était une femme généreuse qui travaillait de ses mains. On va voir ce qu'elle faisait plus spécifiquement. Mais une chose est certaine, elle tomba malade en ce temps-là, parce que les chrétiens peuvent tomber malades. Et elle mourut même. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Fin de l'histoire. Eh non, étonnamment. Verset 38, regardez ici comment l'attachement des frères à cette femme les a poussés plus loin. Comme Lydde est près de Joppé, les disciples, ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent deux hommes. Donc, il y a une complicité ici de plusieurs frères qui envoient deux d'entre eux vers lui pour le prier de venir, n'est-ce pas, chez eux sans tarder. Parce qu'ils connaissaient comment les dons opéraient dans l'Église. Ils savaient que Pierre avait un don pour appliquer la guérison. Alors, il dit, ben voyons, on va l'appeler, on a une situation ici. Verset 39, Pierre se leva, bien sûr, parce qu'il est un serviteur avant tout, partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute où elle était couchée morte. Toutes les veuves, voyez-vous, ici, on voit la communauté, et peut-être même plus que la communauté, les gens du village, peut-être même les non-convertis, l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Voyez-vous, ici, il y avait un esprit de corps, un esprit de cœur aussi. Et là, Pierre, devant cette réalité, sait qu'il doit prier. Il fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi, on a besoin de toi. » Elle ouvrit les yeux, ayant vu Pierre, elle s'assit, il lui donna la main, la fit lever, il appela ensuite les saints et les veuves, et la leur présenta vivante. Alors, c'est intéressant que cet événement-là montre la solidarité du corps, des gens qui veulent aller plus loin, des gens qui veulent faire appel à Dieu pour un bien-aimé dans l'Église. Un autre, c'est un petit peu plus loin dans Actes des apôtres, lorsque les saints se regroupent autour, justement, de Pierre. La situation est difficile, la situation est grave. Pierre a été mis en prison. Il est le deuxième à être mis en prison. Un autre avait été mis en prison par Hérode, c'est Jacques, le frère de Jean, et il avait été exécuté. C'est difficile à comprendre, nous, comment on se sentirait si, par exemple, un bien-aimé dans l'Église avait été arrêté et avait été exécuté. L'Église réagit bien. Le groupe de gens, à ce moment-là, vont réagir comment? Verset 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de quatre escouades. Donc, il est gardé, Pierre. Il est en prison. Verset 5. Donc, Pierre était gardé dans la prison et l'Église, l'Assemblée locale, celle qui était mise au courant, ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Donc, en général, le corps du Christ priait pour Pierre. Et la foi, bien sûr, est en plein exercice ici. On est en train de développer la foi, la pensée du royaume de Dieu. Comment le royaume de Dieu fonctionne? Verset 12. On va sauter parce que là, il y a un ange qui est envoyé à cause des prières pour délivrer Pierre. Même Pierre participe à sa propre libération, mais il est un peu comme dans un rêve. Et verset 12, après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, parce que bien sûr, il connaît ceux qui l'attendent, il y a des affinités avec Marie, n'est-ce pas, la mère de Jean nommée Marc. Ben oui, ils ont travaillé ensemble, entre autres Pierre et Marc, ça, ils se connaissent bien. Mais regardez où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Donc, il y a une assemblée maison, là. Et toute l'Église prie, mais il y a cette assemblée-là qui fait partie de toute l'Église qui était spécifiquement en train de prier. Et il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rod. Alors, on connaît même les serveurs, les serviteurs, les servantes de l'époque de la maison de Marc, et qui s'approche pour écouter. Et elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, bon, au lieu d'ouvrir, elle court en disant « Hey, Pierre est là! » Et les gens qui prient pour Pierre ne croient pas que c'est Pierre. Ils ne la croient pas. C'est intéressant, des fois, on peut prier pour quelque chose, puis quand on a la réponse, on n'y croit pas. Mais enfin, ils se sont ajustés, ce qui montre qu'on peut participer dans l'œuvre du corps de Christ, même avec une foi encore incomplète. On peut le faire. Et on voit à la fin du verset 16, finalement, qu'ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Hein, c'est un étonnement. Ils priaient pour ça, mais c'est une surprise quand même. Vous savez, frères et sœurs, ça fait des années qu'on prie pour certaines choses. Et je vous dis, essayez d'imaginer maintenant que ce que vous avez demandé arrive. Vous allez voir que c'est un autre exercice. C'est un autre exercice. Nous prions, par exemple, pour que l'Église ait un impact dans le monde, que les serviteurs de Dieu soient utilisés. Mais je pense que vous aurez bientôt quelques nouvelles concernant comment un serviteur de Dieu peut être utilisé lorsqu'il est envoyé dans un pays comme Madagascar. Autour de Paul, regardez, j'aimerais qu'on termine presque avec ça, avec l'exemple dans le Acte des Apôtres 14. Regardez comment l'auteur, Luc, va juste utiliser une petite expression pour vous dire, voici l'Église en action, voici le corps du Christ en action. Le corps du Christ est présent quand il y a un besoin. C'est dans Acte 14, verset 19, circonstances dramatiques encore une fois. Des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, donc on assiste à quelque chose de très cruel, de très dur. On voit un enfant de Dieu, un serviteur de Jésus-Christ, être tué à coups de pierre. Et bien sûr, du moins c'est ce qu'on croit. On pense qu'il est mort. Les exécuteurs, ils manquaient pas leur coup. Ils voulaient être sûrs, hein? Quand on lapide quelqu'un, à la dernière pierre, s'ils le font, on en prend une grosse, puis on la lance tout proche pour être sûr que la personne est vraiment morte. Mais regardez la moitié du verset 20 à la fin, les disciples l'ayant entouré. On voit juste une image. Pierre est à terre, probablement ensanglanté, complètement inconscient. La plupart pensent qu'il est mort. Et probablement, il était mort. Mais pour Dieu, il n'était pas mort. Les disciples l'ayant entouré, il se leva, entra dans la ville, là même où on l'avait lapidé. Et bien sûr, le lendemain, sagement, il partit pour Derbe avec Barnabas, continuant, autrement dit, sa mission. Les disciples l'entourèrent. Est-ce que nous nous entourons mutuellement? Est-ce que nous entourons les serviteurs de Dieu? Est-ce que nous sommes là pour faire l'œuvre du royaume de Dieu? Si, frères et sœurs, nous sommes maintenant jugés dans notre capacité à accomplir l'œuvre de notre Maître pour le royaume de Dieu. Nous sommes évalués pour voir si nous sommes fidèles dans les petites choses de son esprit. Profitons de chaque occasion en tant qu'enfants de Dieu. Comme frères appelés dans la région où nous sommes, nous représentons notre région. Nous sommes les représentants avant-gardistes du royaume de Dieu, comme prémices de notre région. Représentons aussi, profitons de l'occasion en tant que cadre, dans le cadre de la mission de l'Église de Dieu uni. En tant que membre aussi du corps majestueux de Jésus-Christ, de tous les temps et de tous les endroits sur la planète, d'exercer à l'échelle qui nous est donnée la loi royale de l'amour. Soyons généreux dans l'utilisation de notre liberté de choix en décidant d'appliquer maintenant dans notre vie quotidienne des petits choix nombreux. Disons-nous les uns les autres, je prierai pour toi cette semaine dans la mission de témoin du chemin de vie du royaume. Je prierai pour toi que tu sois un ambassadeur digne de Jésus-Christ, serviteur du ministère de la réconciliation. S'il te plaît, prie aussi pour moi. Hâtons-nous de nous retrouver ensemble comme nous le faisons aujourd'hui. Réjouissons-nous de l'œuvre que Dieu nous donne d'accomplir par notre bouche, par nos mains, par notre cœur. C'est le corps du Christ en action. Le royaume de Dieu maintenant sur cette planète.